Nous sommes avec Nicolas Barral, dessinateur de SOS Météo, les aventures de Philippe et Francis, tome 3 chez Dargo, à l'occasion du Festival des Utopiales. Bonjour.
Bonjour.
SOS Météo, c'est une parodie, c'est déjà le troisième tome des parodies de Black et Mortimer. Vous comptez en commettre beaucoup?
Suffisamment. Suffisamment. Non, on a évidemment envie d'en refaire un, mais on fait ça à un rythme tranquille. Manière à pas lasser les gens, ne pas faire trop d'ombre à Black et Mortimer non plus. Et voilà, donc oui, il est question d'en faire un quatrième en tout cas, oui.
Vous vous amusez beaucoup quand vous dessinez comme ça une parodie. Vous vous permettez de rajouter des choses dans les cases autres que le scénario qui délire.
Oui, il y a des. Oui, enfin, on essaie de. On procède avec Pierre Vess à une espèce de ping-pong de manière à effectivement à ce que chacun s'y retrouve. Non, je suis quelqu'un d'assez raisonnable et respectueux. Moi, quand on me donne un bon texte à illustrer, je vais pas tout gâcher avec des mauvaises idées de dessinateur, mais voilà, donc c'est en tout cas, est-ce qu'on s'amuse, parce que c'était ça le sens de la question? Eh bien oui et non, c'est-à-dire que il y a certaines situations quand même assez inconfortables dans lesquelles mon scénariste me met de manière assez sadique, quand il faut dessiner la terre vue du ciel, les transformations humaines, voilà. Enfin, donc il y a un certain nombre de choses qui demandent pas mal d'énergie. Et puis il faut faire jouer les comédiens aussi, les comédiens de papier, puisqu'il s'agit de comédie. Donc il faut que le dessin, si possible, fasse rire, en plus du texte brillant. C'est de la sueur, c'est des larmes. C'est pas encore du sang, mais ça pourrait venir. Et mais voilà, donc c'est un ensemble de choses assez, somme toute, assez réjouissantes quand même.
C'est que vous avez un côté masochiste ?
J'ai un côté masochiste. Pour plus que vous, je pense, mais non, c'est, il faut ce qu'il faut, c'est surtout ça, il faut ce qu'il faut. Faire rire, ça demande de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est pas, il n'y a pas que moi qui le dis, si on interroge les comédiens, ils vous diront tous que le rire, c'est plus difficile que le drame. Et voilà, et donc en dessin, ben, c'est un peu la même chose. Il faut se mettre dans la peau des personnages et faire rire, ben, c'est épuisant en fait. Il y en a même qui font des crises cardiaques.
Je vais vous demander comment vous allez, et vous avez monté la case d'hommage. Alors il y a évidemment beaucoup d'hommages à l'œuvre originale, et là il y a une case d'hommage qui est page 11 sur l'album, et qui retrace un petit peu des petits clins d'œil à différents albums de Black et Mortimer. Comment vous avez choisi en fait les différentes cases? Est-ce que c'était par hasard comme ça, ou quelque chose que vous aviez aimé dans les albums?
Depuis qu'on commet, comme vous dites, ces parodies, on fait des citations. Ça, c'est un peu le jeu. Donc là, c'est un pot pourri d'images un peu symboliques, un peu frappantes des aventures de Black et Mortimer par Jacobs. Parce qu'on a, pour l'instant, on n'a pas encore cité les repreneurs officiels, mais qu'à cela ne tienne, il faudra bien un jour y venir. Donc là, c'est un assemblage, effectivement. L'idée, c'était de resituer aussi, c'est-à-dire qu'on part dans cette troisième aventure sur une espèce de sitcom avec des portes qui claquent. Il nous a semblé nécessaire de resituer un peu les personnages dans leur contexte. Donc c'était assez commode à cet endroit-là de l'histoire, c'est-à-dire au moment où, sans trop déflorer l'intrigue, au moment où Mortimer subit une transformation très inquiétante, de lui faire revoir, revivre un certain nombre d'événements passés, qui en l'occurrence effectivement sont empruntés à l'œuvre originale. Voilà, sauf une petite image où on voit Lynn Renault, on se demande pourquoi. Voilà, et donc, parce que bon, ce sont des images frappantes, un peu traumatisantes, et Lynn Renault, c'est quand même quelque chose.
J'ai envie de revenir également sur la couverture. Alors moi, je l'aime beaucoup, cette couverture. Je trouve qu'elle est très parlante, très classique. Et je voulais savoir comment elle s'est montée.
Eh bien, c'est toujours un peu un casse-tête, une couverture. Donc là, on a dans cet album un peu deux sujets en un. Donc il fallait choisir. Alors les deux sujets, c'est effectivement les deux thèmes. C'est la météo, le dérèglement climatique, qui est directement inspiré d'un album de la série mère qui s'appelle SOS Météor. Et puis, il y a dans les 20 premières pages un hommage à Robert Louis Stevenson et plus particulièrement à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, il y a eu d'abord une hésitation sur l'angle à choisir. Et puis donc là, on malaxe tout ça, ça tourne un peu dans tous les sens, et à vide dans un premier temps, et puis à un moment donné, une idée jaillit. Et donc cette idée, je vais quand même en parler, parce qu'évidemment sinon ça va pas être très radiophonique. Donc c'était de montrer, pour illustrer le dérèglement climatique, de mettre sous verre Black et Mortimer, enfin Philippe et Francis, dans une boule à neige, où la neige que surplombe la silhouette inquiétante d'Ulrich, qui a une expression qui en dit long, qui semble se réjouir évidemment de voir ses deux adversaires traditionnels prisonniers de ce climat très inhabituel pour Londres. Voilà. Voilà, je ne sais pas si. Je pense que le mieux, c'est que les gens l'achètent, en fait, parce qu'on voit mieux.
Mais là encore, c'était un pied de nez, cette couverture, puisque les personnages ne se comportent pas forcément dans l'album comme on pourrait s'y attendre en voyant la couverture.
Ah, c'est vrai. Bah oui, mais on peut pas tout mettre dans une couverture de toute façon, puis il vaut mieux pas quand même trop dévoiler de l'intrigue. Et une chose que j'ai pas dite, c'est pour ce qui est des couleurs, parce qu'on est toujours un peu dans l'hommage. Là, je me suis inspiré de la couverture de l'affaire du collier. Alors, c'est pas tout à fait la même. Ulrich n'a pas la même position, ni la même tenue vestimentaire. Mais le fond rouge vient de là. Quand je dis que c'est un mélange, c'est comme ça que ça se met en place. Ça se met en place de manière pas très rationnelle en général. Mais il y a un moment où le mélange de tous les ingrédients, les emprunts à l'œuvre de Jacobs, la nécessité d'être drôle, d'être graphique, finit par donner un dessin qu'on veut absolument efficace, et à tout prix efficace. Puis ça passe par la case éditeur aussi, il faut que l'éditeur évidemment soit d'accord, que ça lui semble assez suffisamment commercial. Voilà, donc c'est une combinaison assez complexe, et quand c'est fini, en général, on est soulagé. Enfin, d'ailleurs, en l'occurrence, là, je ne l'étais pas complètement, parce que j'ai appris en cours de route que la Fnac voulait faire une édition spéciale, donc il fallait que je trouve une deuxième idée. Donc la rebelote, on repart pour un tour. Mais enfin, on finit par trouver quand même.
Vous citez souvent l'œuvre originelle. C'est quelque chose que vous relisez régulièrement, ou au contraire, vous voulez vous en détacher pour être un peu plus libre sur vos propres ouvrages?
Moi, je ne suis pas un idolâtre de Jacobs, et je pense que c'était quand même plutôt mieux. Si j'avais été un fan absolu, j'aurais peut-être été un peu gêné aux entournures pour me lancer dans une parodie. Une parodie gentille, une parodie aimante, une parodie... parce qu'on est des gens tendres, Pierre Vess et moi. Mais malgré tout, il y a des moments où peut-être on peut donner le sentiment d'égratigner un peu. C'est le personnage, ces figures emblématiques de la bande dessinée franco-belge. Mais on fait ça avec amour, et d'ailleurs on avait déjà fait ça avec deux autres... un autre couple de personnages très célèbres, puisqu'avec Pierre Vess, on a commis une parodie de Sherlock Holmes juste avant. C'est d'ailleurs cette parodie de Sherlock Holmes qui a donné envie à Dargo de nous recruter. Alors, il ne savait pas exactement pourquoi, mais nous, on a trouvé assez rapidement. Et donc, on leur a proposé de parodier Black et Mortimer. Et ça relevait de la science-fiction au départ, hein, d'ailleurs. Parce que on pensait vraiment qu'ils nous enverraient bouler. Eh bien, pas du tout. Ils ont été absolument ravis. C'était Guy Vidal, à l'époque, qui tenait encore les rênes de la maison d'Argo. Voilà, donc ils ont demandé à voir. Et ils n'ont pas été déçus, apparemment. Donc ça continue. Voilà.
Est-ce que vous envisagez de quitter la caricature de personnage pour faire une œuvre beaucoup plus noire, oui, sérieuse?
Alors ça s'est déjà un peu fait quand même, hein. C'est-à-dire que juste avant cet album, j'ai sorti une bande dessinée chez Dargo avec Tony Domenacuista au scénario, qui s'appelait Les Cobayes, où il était question d'ailleurs là aussi un peu de science-fiction, puisqu'il s'agissait de d'essais pharmaceutiques qui tournent mal, avec une toute nouvelle molécule aux effets secondaires pas très rassurants. Donc ça, c'était ça ne manquait pas d'humour, parce qu'avec Tony Benacquista, l'humour n'est jamais très loin, mais l'arrière-plan était quand même assez dramatique. voire un peu policier sur les bords. Voilà, et puis en ce moment, alors ça n'a rien à voir avec la science-fiction là par contre, mais je suis en train d'adapter pour la deuxième fois un roman de Léo Mallet chez Casterman, puisque je me suis vu confier par Jacques Tardy la reprise de Nestor Burma. Donc là, c'est pareil, c'est un autre genre, une autre facette que je suis amené à développer. Là, pour le coup, on n'est pas dans la parodie, surtout pas, alors c'était même interdit. On est dans la reprise, qui est un exercice qui n'est pas inintéressant parce qu'il permet de... Enfin, moi, il me permet de sortir un peu de faire un pas de côté par rapport à ce que je fais habituellement, de quitter Nicolas Barral, ce qui fait du bien parce que Nicolas Barral, quand même, 24 heures sur 24, c'est parfois pénible. Et puis, ça permet de redécouvrir Tardy, que j'avais l'impression de connaître, parce que je suis un gros fan de Jacques Tardy, mais là, on est obligé de décortiquer. Donc, on apprend des choses. Nouvelle et on réinjecte ça ensuite dans son travail plus personnel et on a l'impression ou l'illusion de progresser. Voilà, donc c'est... Non, je ne fais pas que me moquer des personnages célèbres. Parfois, je leur rends véritablement hommage.
À chaque fois, vous ferez des one-shots ou est-ce que vous penserez éventuellement sortir... Parce que c'était le cas sur les Black et Mortimer, et il y avait des histoires en plusieurs volumes.
Alors en fait, tout est ouvert. Sur Baker Street, donc la parodie de Sherlock Holmes, il y a effectivement une histoire qui se déroule sur deux tomes. Ça dépendra un peu des discussions qu'on aura avec le scénariste. Mais non, moi je n'y suis pas opposé. Là pour le coup, ça réclame d'enchaîner les albums pour que le lectorat ne s'impatiente pas. Pourquoi pas ? C'est pas bête.
Est-ce que vous avez pensé éventuellement à une bande-son à écouter en même temps que ce volume ?
Une bande-son ? Ah bah alors, God Save the Queen, déjà. La question sous-jacente, c'est est-ce que j'écoute de la musique en dessinant ? J'écoute pas tant que ça de la musique en dessinant, j'essaie de me concentrer. Ce que je pratique depuis quelques temps, c'est l'atelier virtuel. Ça vous intrigue ? L'atelier virtuel, ça se passe avec un logiciel qui s'appelle Skype, par exemple. Ça peut être autre chose, mais... En l'occurrence, pour moi, c'est Skype. Et ça consiste à être réunis, non pas dans la même pièce avec des collègues, mais chacun chez soi. Et donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, ça permet de... Quand on le sent pas trop le matin, quand on est un peu... Voilà, un peu triste ou pas très motivé, c'est une espèce de pointeuse. Et ça marche pas mal. Ça permet d'avoir une vie sociale, un semblant de vie sociale, parce qu'on exerce des métiers quand même assez solitaires. Voilà, puis de temps en temps un peu de musique quand même, mais pas trop, quand même, pas trop.
Le thème des Utopiales cette année, c'est intelligence. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Déjà, je me demande pourquoi on m'a invité. L'intelligence, qu'est-ce que ça m'inspire ? L'intelligence. Alors, moi, j'ai tendance à quand j'y réfléchis, à l'intelligence, et quand je m'observe face à certaines situations de la vie courante, je l'articule avec l'émotion. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que ça joue pas mal sur mon QI, l'émotion. D'ailleurs, j'ai suivi une émission récemment sur le cerveau, sur le service public, où justement, quand on a mesuré le QI des présentateurs, on a aussi mesuré leur QE, c'est-à-dire leur quotient émotionnel. Et alors, j'étais bien content d'être arrivé tout seul à la même conclusion, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne pouvait pas mesurer l'un sans l'autre, enfin que les deux étaient intimement liés. C'est une chose qu'effectivement j'ai pu observer à mon sujet. Voilà. Par exemple, en interview, je suis beaucoup moins intelligent qu'en dehors, parce que le trac, c'est ça que j'ai d'intelligent à dire sur l'intelligence. C'est que je crois qu'on ne peut pas la séparer de l'émotion.
Si vous permettez d'avoir un des 5 véhicules que je vais vous citer, lequel est-ce que vous prendriez ? Vous avez le choix entre la DeLorean, la Batmobile, le Van Scooby-Doo, Kit ou Flash McQueen.
Voilà, je pense que je prendrais la fourgonnette de Scooby-Doo, moi. Parce que ça me rappelle mes mercredis après-midi, quand j'étais petit.
Merci.
Mais je vous en prie.